Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique en ce lundi matin est Guirec Hamon. Il est référent Jeunes Horizons des Côtes d'Armor. Et nous allons parler politique avec lui, évidemment, ce matin au micro de la matinale de Bretagne 5. Bonjour Guirec Hamon.
Bonjour, merci de me recevoir.
On va donc parler politique, il y a beaucoup de choses à dire, de commentaires à faire. J'avais envie de commencer, avant de parler, j'allais presque dire des choses qui fâchent, de parler de cette inauguration de Notre-Dame de Paris qui retrouve enfin un visage humain et puis qui rentre pour des millénaires, on l'espère, sans souci et sans incendie surtout. Il y avait cette réception des chefs d'État ce week-end à Paris. Vous avez trouvé ça bien, vous avez trouvé que c'était judicieux, que finalement la politique et même la géopolitique s'invite à Notre-Dame.
C'est une opportunité, moi je trouve aussi, de montrer que la France a toujours une aura dans le monde. Qu'elle arrive à faire venir des chefs d'État et des chefs d'État en devenir, puisqu'il y avait Donald Trump, et que c'était une occasion, là aussi, de faire rencontrer Donald Trump et le président ukrainien Zelensky, par exemple. Et je trouve que c'est une bonne idée, c'est une bonne opportunité, justement, dans ce moment de concorde, je vais dire spirituel, pour ne pas dire religieux, de rapprocher, finalement, que ce soit l'opportunité de rapprocher des personnalités dont on avait peur qu'elles ne puissent pas s'entendre et dont on avait entendu auparavant qu'elles ne s'entendaient pas. Et cet espace de dialogue pour finalement tirer les choses au clair. Alors on attend de voir ce que ça donne. Moi je trouvais que c'était bien joué de la part de la diplomatie française de rapprocher ces deux personnages-là, notamment parmi d'autres, hein, puisque c'est un petit peu un autre sommet diplomatique également. Donc il y a toujours une aura de la France, une aura de l'histoire de la France, du patrimoine français. Et au-delà de ça, la cathédrale Notre-Dame, c'est finalement le cœur aussi de Paris, ville des Lumières, qui a là encore une histoire particulière, qui est quand même millénaire aussi. Et donc dans l'île de la Cité, qui est vraiment le cœur de Paris, puisque Paris s'est construite à partir justement de l'île de la Cité, puis cette étendue au-delà de la Seine. Je pense j'invite les gens à lire Notre-Dame de Paris, qui justement, Victor Hugo explique ça très bien, dans le détail, mais pas trop. Et c'est très bien, moi, je trouve, puisque ça remet au centre, justement, dans un moment qui est très particulier pour la France, mais également dans le monde, finalement, que c'est toujours possible de faire rencontrer des chefs d'État et d'aller de l'avant.
Alors, avec beaucoup de choses qui se sont dites en coulisses, et bien sûr, au-delà des murs de Notre-Dame, on a cette réticence des États-Unis, en tout cas de Donald Trump, à aider l'Ukraine. En tout cas, il voudrait arrêter la guerre. Il y aura des concessions à faire. Est-ce que ce moment a pu aussi permettre ces concessions-là de la part du président Zelensky, mais aussi de la part de Donald Trump, en disant, voilà, on peut essayer de trouver un compromis de paix, mais pas au désavantage de l'Ukraine.
C'est à espérer. On n'a pas encore les retombées de cette discussion, puisque ça n'a pas duré non plus très très longtemps, mais
on parle d'une petite demi-heure d'entretien,
c'est ça.
Sans traducteur et en anglais.
C'est ça, donc espérons que ça a peut-être brisé la glace, ça a peut-être recentré, notamment de la part de Zelensky, les priorités de l'Ukraine, parce que c'est quand même un pays qui est attaqué. Les positions de Donald Trump auparavant, est-ce que c'est pour clarifier les choses, est-ce que c'était purement des propositions électorales, ou finalement est-ce que la réelle politique maintenant rentre en jeu, va faire que Donald Trump va être un petit peu plus ou un petit peu moins conciliant envers la Russie? C'est à voir. C'est à voir. J'espère, nous espérons que ce soit dans cette direction-là, puisqu'il faut, là encore, envoyer un message, notamment à la Russie, mais à tous les belligérants dans le monde, qu'attaquer un pays, ça ne doit pas rester non plus la norme. Il ne faudrait pas retomber dans des errances qu'on a connues en Europe, notamment dans les années 30.
On parlera tout à l'heure du proche Moyen-Orient, il y a beaucoup de choses à dire en ce lundi matin également. Juste un mot aussi sur un personnage qui n'est pas passé inaperçu à Notre-Dame, c'est Elon Musk qui a assisté à l'office du retour de la religion dans l'église, dans la la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elon Musk, qui a toisé un petit peu quelques dirigeants, on parle en particulier de deux présidents français qui étaient présents au premier rang. Cette image a beaucoup marqué, alors a beaucoup fait couler d'encre aussi cet Elon Musk triomphant. Et voilà, ces anciens dirigeants français un petit peu recroquevillés sur leurs chaises.
Je pense qu'on prend... une image, je pense, d'une vidéo, et on a choisi celle-ci parce qu'elle allait peut-être faire, voilà, justement, couler de l'encre. Est-ce qu'on doit apporter plus d'importance à cette image-là ? Il les a toisées. Est-ce qu'il sait seulement qui était Nicolas Sarkozy et François Hollande ? Je ne sais pas. Et en vérité, c'est pas important. Est-ce qu'il toise ? Il marche. Moi, ce que je vois, c'est qu'il marche dans une église, il rejoint sa place. Après, on peut commenter, on peut bavarder sur ce que ça veut dire, ce que la photo veut dire, mais enfin, je pense qu'il y a des choses plus importantes quand même.
Voilà, c'était pour le petit clin d'œil, parce qu'elle a été beaucoup commentée, cette photo, sur les réseaux sociaux, et pas forcément à l'avantage des anciens présidents. On va parler de politique. Je parlais tout à l'heure des choses qui fâchent, de politique intérieure cette fois-ci, de politique française. Il ne vous aura pas échappé que nous avons eu une dissolution, que nous n'avons pas de nouveau Premier ministre. Alors, on dit que peut-être ce soir, on aurait un Premier ministre, ou en tout cas, ça va aller beaucoup plus vite que la dernière fois. Est-ce qu'il y a urgence à avoir un nouveau Premier ministre, à se remettre au travail? Alors, j'ajouterais même que c'est le nom de François Bayrou qui circule beaucoup depuis hier, et sur les réseaux, et aussi dans les milieux autorisés, comme l'on dit.
Là encore, c'est, je pense qu'il faut éviter les commentaires, le bavardage, les spéculations, on n'en sait rien. Honnêtement, moi, je n'ai pas d'idée sur est-ce que ce sera François Bayrou, est-ce que ce sera Sébastien Lecornu, ou est-ce que ce sera quelqu'un issu de la gauche? J'en sais rien. Le Premier ministre sera annoncé ce soir? Je n'en sais rien non plus. Ce qui compte finalement avec ce constat-là, c'est qu'il y a une stabilité. C'est ça qui compte pour l'instant à l'Assemblée nationale. Donc on peut remettre sur le président de la République toute la faute, toute la responsabilité de l'instabilité politique. Il n'en demeure pas moins que depuis la dissolution, le centre du pouvoir revient à l'Assemblée nationale. Et au Sénat.
Mais
c'est
une bonne chose finalement que le pouvoir revienne à l'Assemblée nationale.
C'est une bonne chose si chacun agit en responsabilité. Et on l'a bien vu avec la censure, qu'on se cache parfois derrière des prétextes pour censurer. On l'a vu avec le Rassemblement national, qui part sur une copie de négociation avec Michel Barnier. Michel Barnier cède sur quelques points. Le Rassemblement national était parti dans cette logique-là, c'est que s'il cédait sur ces points-là, on ne censurait pas. Puis finalement, la veille, on va censurer, puisque maintenant on demande à ce que tout ce qu'on propose soit retenu. Michel Barnier a dit non, dans ce cas-là je risque la censure. Donc là il y a, une part de responsabilité qui n'est pas moindre de la part des députés, et surtout de Mme Le Pen, qui là encore montre qu'elle décide seule, au dernier moment, qui retourne sa veste, si on n'avait pas encore compris là également, puisqu'il y avait une proposition de loi du Rassemblement national pour revenir sur la réforme des retraites, alors que quelques mois auparavant, pendant les législatives, il disait non, nous ne reviendrons pas dessus. Ça crée, ne serait-ce que pour les électeurs, un sentiment un petit peu de confusion. Parce qu'où est-ce qu'on va ? Est-ce que, sur des sujets aussi fondamentaux que ça, en quelques mois, on change d'avis pour finalement, selon la situation politique. Donc la stabilité politique n'est pas à regarder du côté du Rassemblement national. Est-ce qu'elle était à regarder chez LFI ? Non plus. Parce qu'on a vu qu'ils ne prenaient pas en considération les mains tendues. Alors, ils considèrent que la main tendue n'était pas assez ferme de la part de Michel Barnier, mais enfin, elle a quand même été tendue, ce n'est pas dans leur logique à eux d'être dans le compromis. Moi, ce que je vois, c'est qu'à Horizon, et ça a été salué notamment, on a parlé à tout le monde. Édouard Philippe l'a dit, nous n'avons pas de ligne rouge. Le but, c'est d'avoir une stabilité à l'Assemblée nationale, c'est là que ça compte, c'est là que le pouvoir revient, mais on voit maintenant, avec cette censure notamment, c'est flagrant, c'est éclatant, qu'on revient dans des logiques de parti. Est-ce que c'est bon ? Probablement, dans la situation actuelle, non, puisqu'on n'est pas dans une logique de compromis. Les partis, maintenant, doivent discuter entre eux, et on a deux blocs qui ont beaucoup de députés qui ne veulent pas discuter.
C'est un peu les limites de l'exercice de la Ve République. Le général de Gaulle, en son temps, avait effectivement fustigé les partis qui, lors de la Quatrième République, faisaient le désordre et n'arrivaient pas à diriger, finalement, le pays. Est-ce qu'on revient un petit peu, allez, je me fais provocateur, à une forme de Quatrième République, quelque part ?
De fait, oui. Puisque, s'il y a un Premier ministre, même avant la fin décembre, ce qui est plus que probable, on aurait eu quand même 4 premiers ministres en un an. C'est quand même un record pour la 5e République.
On n'a pas battu celui d'un 4e.
Hein. Non, heureusement. Mais on n'est peut-être pas loin. Parce que la dissolution, cette configuration de l'Assemblée nationale, elle ne date que depuis juillet et véritablement depuis septembre, où il y a vraiment eu la rentrée politique. Donc, voilà, cette instabilité, sur un an, on verra ce que ça donne.
On n'est pas à l'abri d'une autre dissolution. D'une autre censure.
Oui.
Voilà, je presse anticiper, parce que la dissolution, ça ne pourrait intervenir qu'à l'été, puisque c'est le président de la République décidera ou pas, d'ailleurs.
C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a risque de censure? Oui, il y a risque de tout. On n'est plus sur du long terme, plus du tout. Donc, c'est difficile pour les administrations qui ont la charge, justement, de rédiger les décrets, de rédiger des projets de loi, de suivre une politique, ne serait-ce que sur une année par un budget, on est un petit peu perdu aussi. Mmh. Et là, on parlait notamment en ce moment du Mercosur. Avec la censure, on n'a plus de ministre des Affaires étrangères, on n'a plus de ministre de l'Agriculture. Donc, pour bloquer, c'est ce que veut la France, c'est ce que veulent les agriculteurs français, pour bloquer maintenant ce traité qui a été signé.
Un petit peu rapidement et en douce, on pourrait le dire comme ça, pour être trivial.
On peut en discuter aussi de la façon dont ça a été fait. La France s'y oppose. Eh bien, il faut chercher maintenant des majorités de blocage ou des minorités de blocage, puisqu'il y a, c'est très technique, mais il y a un certain nombre de pourcentages, nombre de voix, etc., notamment au Conseil, pour pouvoir bloquer l'adoption de... Voilà. Mais si on n'a pas de ministre des Affaires étrangères et de l'Europe qui s'occupe de cela, on est dans une situation difficile. Au Parlement européen, c'est la même chose, puisque les Républicains sont contre en France. Au Parlement européen, c'est à eux maintenant, eh bien, ils font partie du groupe qui s'appelle le PPE, le Parlement européen, qui est le plus gros groupe. Bien, c'est à eux maintenant de chercher des alliés, et le travail, il est là. Parce qu'on peut justement dire « Ah, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien ». Bon, bah, il faut aller chercher maintenant comment on fait les choses. Et j'ai peur, je crains que ce ne soit pas dans la logique des politiques, de certains responsables politiques, c'est que s'il n'y a pas de lumière, on ne se montre pas. Et bien, c'est aussi dans l'ombre que le travail se fait, quoi.
Avec beaucoup de voix qui se sont élevées ces dernières heures, au centre principalement, mais on les a entendues aussi à droite, dans l'ex-majorité présidentielle, on les a entendues aussi parfois à gauche, dans une gauche modérée, ces voix pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une gouvernance entre les partis républicains. Alors en dehors du RN et de LFI, c'est à peu près le sens commun de ce que l'on entend actuellement. Est-ce que c'est une bonne chose déjà qu'il y ait des voix qui s'élèvent et qui disent « voilà, on est prêt à... » peut-être faire des compromis, justement, cette fameuse culture du compromis et non de la compromission, pour pouvoir gouverner, pour pouvoir ramener la stabilité.
Bah, c'est rassurant. Moi, je trouve que c'est rassurant. Et Édouard Philippe l'avait dit depuis... On parle des législatives, mais finalement, il en avait parlé bien avant, puisqu'il y avait là encore... il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée, même avant, ou très peu, enfin, très peu de voix. Il faut ouvrir. De toute façon. Donc ça fait plusieurs mois qu'il en parle, mais on y arrive finalement. C'est ça qu'il faut faire.
C'est un peu par la force des choses finalement que...
Ah bah oui,
mais là il va falloir discuter.
Il n'y a pas le choix, parce qu'on peut se cogner la tête les uns contre les autres, on ne va pas avancer. Donc au bout d'un moment, il y a les Français qui regardent, il y a des Français qui attendent. Je pense aux agriculteurs, mais je pense également aux radios indépendantes qui attendent une plus grande visibilité. Sur ce qui va se passer l'année prochaine, sur les chefs d'entreprise également, qui l'incertitude ne joue pas en faveur des entreprises. Bon, ne joue pas en faveur des investisseurs non plus, puisque l'intérêt de la dette augmente. Un intérêt de la dette, ça veut dire qu'on doit la rembourser chaque année. On est au-delà de 50 milliards par an, ce qui est énorme. Donc, c'est 50 milliards de moins que l'on peut investir. Et c'est plus que le budget de l'éducation nationale.
Il faut quand même néanmoins que le pays continue à fonctionner.
Exactement.
Que les fonctionnaires soient payés, que les prestations sociales soient payées.
Et on n'est pas comme, c'est pas un, comment dire, c'est un pas chômeur, comme aux États-Unis. Voilà. C'est pas comme ça fonctionne pas la même chose. Il y a des marges de manœuvre, etc. Mais enfin, c'est pas parce que il y a pas de shutdown brutal que la situation va en s'améliorant. Non, il faut de la lisibilité, une clarification sur ce qui va être proposé l'année prochaine et dans les prochaines années. Je pense notamment à la défense. Dans la situation actuelle, il faut une lisibilité aussi là-dessus. Pour peser en Europe, puisque la France est quand même un interlocuteur privilégié, parce que la France a un arsenal militaire qui est relancé mmh. avec une augmentation permanente du budget de la défense. On peut le regretter au vu de la situation actuelle, je pense que c'est bienvenu. Mais là encore, il faut de la responsabilité des responsables politiques. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que le centre et les sociodémocrates, les républicains qui s'en rendent compte, sauf qu'il y a besoin de plus de députés pour cela, mais qui, pour l'instant, voient davantage leur gain politique électoral que la France. Et ça, c'est dramatique.
Il va falloir le travailler collectif.
Bah, oui, pas de choix.
Avec effectivement une situation compliquée, une demande sociale importante, hein, on en parle souvent à ce micro. Vous faisiez référence tout à l'heure aux radios indépendantes, à la culture. On a vu néanmoins des collectivités territoriales, et vous voyez où je veux en venir, les Pays de la Loire par exemple, qui ont sévèrement taillé dans les budgets de la culture, ce qui suscite une forme d'incompréhension. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut éviter ce genre de mesures drastiques qui bloque tout le monde, finalement? Est-ce qu'il faut faire des efforts, mais les faire de façon raisonnable?
Là, c'est une proposition de budget, justement, étalée sur plusieurs années. Alors, je n'ai pas le détail exact des réductions. Mais là encore, ça fait partie de la responsabilité de chacun que d'ouvrir la discussion. Mmh. Bon, est-ce que c'est... J'imagine qu'il va y avoir des débats assez houleux.
C'est déjà assez tendu
à la région. Là encore, ça va être l'opportunité de clarifier les choses, de voir jusqu'où on peut aller, etc. Mais ça demande, c'est vrai, un exercice politique, puisqu'il faut de toute façon arbitrer, bien arbitrer. Et là, je laisse la voix à la présidente de région de la Loire-Atlantique. Sur ce sujet-là, je ne suis pas spécialiste. Moi, je suis davantage breton. Je peux davantage vous parler.
Voilà, non. C'était juste pour
mais oui, mais
pointer c'est, un fait autour de la culture qui aurait pu être sur un autre domaine, évidemment.
Exactement. Mmh. Et c'est, sur la culture et sur d'autres, puisqu'on demande des économies actuelles. Ces économies-là auraient pu être faites auparavant. Mmh. Horizon proposait, justement, mettait en lumière que des finances publiques saines, une économie qui va bien. Il faut choyer cela, pas par idéalisme, pas par, béatitude, etc., dévoterie même. Mais si on s'y prend suffisamment tôt, il n'y a pas à faire de réduction drastique qui, là, qui détruirait beaucoup de choses.
Mmh. Il ne faut pas travailler avec une vague qui emporte tout sur son passage.
Non, seulement plus on attend et plus la facture est salée. Mmh. Donc on est dans cette situation-là et il y a des partis qui jouent de cela, qui vont pousser justement au désordre pour justement que le centre soit obligé de prendre des mesures drastiques parce que le centre est responsable et ensuite remettre la responsabilité sur le centre parce qu'ils ont amené des réductions, nous ne sommes pas d'accord, etc. Mais vous avez joué le jeu, c'est votre pari, notamment à LFI, de la démission du président de la République.
Alors j'allais y venir justement, est-ce que la finalité de tout cela, c'est pas justement la demande du départ d'Emmanuel Macron d'une façon ou d'une autre?
LFI l'a dit, dès le soir de la censure. Bon, Emmanuel Macron a répondu que non, il resterait. Je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt du Rassemblement National qu'il démissionne tout de suite, parce qu'on l'a bien vu pendant les législatives, il n'était pas prêt, ne serait-ce que pour des législatives. C'est pas dans leur intérêt, ils attendent des élections, et puis ils jouent la responsabilité, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu la censure, ils n'ont pas applaudi, ils n'ont pas souri. Je pense que Mme Le Pen a pris sa leçon lorsqu'elle avait voté pour la loi immigration au dernier moment, en souriant, en disant « je les ai bien eus ». Ouais, sauf que ça n'a pas été très bien apprécié par les gens, parce qu'ils ne savent pas. Ça les perd aussi. Et Mme Le Pen l'a fait en toute gravité, en ayant pris conscience de la responsabilité de voter la censure. Je ne suis pas tout à fait sûr. Donc, est-ce qu'ils le veulent? Ils veulent le pouvoir, c'est sûr. Est-ce qu'ils veulent la démission? Ce ne serait pas dans leur intérêt. Mmh. Au centre, Horizon et les partenaires, on se dit, le pouvoir revient à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on bosse sujets, les différents sujets. C'est le cas Naïma Moutchou, notamment, vice-présidente de l'Assemblée nationale et membre du parti Horizon, députée Horizon. elle est saluée justement pour sa capacité à travailler avec tout le monde. Mmh. Et toutes des personnalités. Moi, je pense à Anne Le Hénanf, qui est députée du Morbihan, de Vannes, à Béatrice Bellamy aussi de La Roche-sur-Yon. Ce sont des femmes qui travaillent sérieusement sur des sujets compliqués, sur des sujets difficiles, techniques, et qui vont chercher à discuter avec tout le monde. Mmh. Pas pour bavarder, mais vraiment pour discuter. Il faut que cela aboutisse. Bon, bah, si on rogne sur certains points, on rogne, mais au moins on arrive avec quelque chose. Il vaut mieux arriver avec quelque chose qui flotte, plutôt que de se dire, bah non, on va s'aborder le bateau, et on n'aura rien à proposer. Là, pour le coup, c'est pas dans l'optique d'horizon. Donc il y a tout ce travail-là de l'ombre qu'il faut saluer. Moi, je trouve que c'est responsable, que c'est honorable, parce qu'elles ne comptent pas leurs heures, que ce soit à Paris, en commission, même après, ou alors en circonscription. On a suivi Anne Le Hénanf, notamment dans le cadre de notre projet chez les jeunes Go Horizon. Je salue Louise Rowe, Louise Le Hénanf, Mathéo Guyon, parmi d'autres. Et on voit bien ce que c'est que sur le terrain, le boulot de député. C'est pas confortable, hein. On va pas les plaindre non plus. Mais enfin, c'est beaucoup de responsabilités. Vous êtes votre propre patron. Vous allez voir les gens si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Elles le font. Mmh. Et elles y vont. Et elles font des initiatives aussi personnelles à côté. Mais quand je vois Anne Le Hénanf qui bosse sur des questions de défense, sur l'IA, sur une nouvelle opérabilité des forces françaises, les changements intérieurs même, notamment de l'espionnage, du contre-espionnage, etc., c'est des sujets particulièrement difficiles. Très important et c'est essentiel, notamment pour pas se faire manger par les autres puissances comme la Russie, comme les États-Unis, comme la Chine. La France doit là encore investir des moyens, investir de la matière grise, et ils le font extrêmement bien.
L'importance du social, l'importance aussi du rayonnement de la France, et puis on le voit dans un monde troublé, il y a eu la chute presque, j'allais dire, inattendu, en tout cas très rapide, de Bachar al-Assad ce dimanche. Le tyran déboulonné, c'est un petit peu là qu'on pourrait dire, pour résumer, Bachar al-Assad, qui est parti en Russie, qui s'est exilé en Russie, qui a été reçu par Vladimir Poutine, autorisé en tout cas à rejoindre la Russie par Vladimir Poutine, qui quand même en la matière abandonne quelque part la Syrie. Est-ce qu'on peut se réjouir finalement du fait que les islamistes, il s'agit bien d'eux, reprennent le pouvoir, ou est-ce que c'est quand même un peu à double tranchant? Est-ce que demain, on ne risque pas d'avoir une situation comme en Afghanistan, par exemple?
Voilà, on en a beaucoup parlé déjà entre amis, puis avec mes parents, etc. J'en ai beaucoup parlé. J'ai regardé aussi hier, justement, sur France 5, ou RT, je ne sais plus, l'émission politique, sur ce sujet-là. Et en effet, je ne pense pas qu'il faille, pour l'instant, se réjouir où Bachar el-Assad est parti, etc. En réalité, le poids de Bachar el-Assad dans la région n'était plus très important. Donc il y avait la Turquie qui évidemment poussait à ce qu'il parte. Bon, très bien, la Turquie a ses intérêts dans la région, ne serait-ce qu'historique. Hein. Mais il est parti maintenant. Qui prend la suite? Et c'est là où il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a les islamistes radicaux qui sont convaincus, il y a les islamistes qui, par opportunité, ont rejoint cette section parce que c'était des rebelles et que les islamistes avaient un poids financier, notamment aidé par l'Iran ou par d'autres. Et donc, maintenant, quelle est la place de cette relève? Est-ce qu'on va tomber dans un scénario comme en Libye, où il n'y a pas d'État, c'est un État, un État failli depuis plusieurs années? Est-ce qu'on va justement sur un scénario afghan, ou alors est-ce qu'il y a vraiment une démocratie qui va sortir de tout cela? Parce que je notais que beaucoup d'intervenants parlaient d'une guerre qui était finalement syrienne, contrairement à d'autres guerres où il y avait des puissances étrangères qui venaient. Bon, là, il y a quand même des puissances étrangères derrière, toujours des puissances étrangères derrière, mais c'était une guerre vraiment syrienne. Est-ce que ça va être suffisant pour faire émerger un pouvoir stable? J'en sais rien.
Avec cette nouvelle qui est arrivée hier soir, en fin de soirée, des États-Unis, par la voix de Joe Biden, qui est toujours président des États-Unis, il faut bien le préciser, et qui a annoncé cette série de bombardements sur des positions très précises des milices telles qu'Al-Qaïda, et ces bombardements pour éviter justement qu'il y ait un embrasement d'un côté et à la fois une trop grande puissance de ces milices islamiques.
Oui, alors c'est des considérations y a des informations que j'ai pas. Donc, très modestement, je veux dire, j'en sais rien. Mais quand on regarde justement, parce que ce conflit en Syrie, il fait partie d'une kyrielle de petite Syrie qui est de petite Syrie, de petits conflits de révolution.
On peut le dire comme ça.
Oui, c'est vrai. Hein, qui ont émergé depuis les printemps arabes. Donc ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Et puis quand on regarde finalement les printemps arabes, qu'est-ce que ça a amené? On voit la Tunisie, ça s'est bien radicalisé aussi. On voit la Libye, un État failli. On voit l'Égypte, il y a une nouvelle, un nouveau régime autoritaire.
Militaire.
C'est ça. Finalement, la démocratie n'a pas eu beaucoup de place. Donc, si on regarde ce qui s'est passé autour, faut se méfier. Faut se méfier. Bachar el-Assad est parti, certes, mais est-ce qu'on a troqué un tyran pour un autre? Ça, c'est la question.
Voilà, elle va rester en suspens encore quelques temps, mais je voulais vous entendre là-dessus.
Et justement, pour rebondir sur la Russie, la Russie a abandonné finalement ses positions en Syrie, ou le soutien en Syrie, parce qu'elle aussi est occupée ailleurs.
Voilà, vous me donnez la transition. Ah bon.
Et ça montre qu'elle n'est pas, elle n'a peut-être pas les moyens de ses ambitions. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle est en Afrique, elle remplace finalement dans l'imaginaire collectif ce que les Africains pensaient que la France faisait. C'est-à-dire, c'est un nouveau pouvoir colonial en Afrique. Bon, elle est donc investie en Afrique, elle est investie en Ukraine avec des moyens militaires qui pompent quand même pas mal d'argent de la Russie. Elle a d'autres également conflits à gérer en interne. Donc finalement, elle ne peut pas être partout. Mmh. Elle a dû lâcher la Syrie, elle a dû faire des choix. Et on voit bien que la diplomatie russe aussi a ses limites et qu'elle s'épuise.
Justement, est-ce que ça peut avoir une influence? On parlait en commençant de Notre-Dame de Paris et de la visite de Donald Trump, de cette rencontre avec Volodymyr Zelensky. Est-ce que ça peut avoir une influence justement sur la guerre en Ukraine, guerre proche de nous?
Mais il y aura, une influence, une perte d'influence plutôt, puisque ce que la Russie abandonne, la Turquie investit. Donc elle perd de ce côté-là. Qu'est-ce qu'elle gagne à côté de ça, je ne saurais pas vous dire. Mais là encore, faut travailler le sujet. C'est-à-dire l'Ukraine, l'Ukraine a besoin des États-Unis, l'Ukraine a besoin de l'Europe. Il faut un front commun.
Un dernier mot, il nous reste 2 petites minutes, me fait signe notre réalisateur, ça va aller très vite, mais on allait dire la veille, mais maintenant on y est, d'une recomposition géopolitique, tant stratégique que politique, mais aussi économique. Est-ce que là aussi il va falloir que l'Europe, et dans cette Europe la France, se renforce par bien des égards y compris au niveau politique, et ça nous ramène à cette dissolution. Est-ce qu'il faut aller maintenant très vite pour retrouver la stabilité, pour peut-être tourner la page?
Mais c'est le départ, c'est la stabilité politique. Si on a une stabilité politique, on peut voir sur du moyen, du court, moyen, long terme. Si on voit sur du long terme, on rassure nos partenaires puisqu'on a une voix qui est forte. Si on a une voix qui est forte, elle pèse. Si on sait où on va, on rassure, on avance, national, Europe, monde, donc c'est important, c'est le socle, c'est le pilier.
En 30 secondes, Édouard Philippe peut être dirigeant, futur dirigeant qui tournerait la page?
Moi, je pense que oui, mais avant de tourner la page, faut savoir ce qu'on va faire. Faut d'abord lire la page et apprendre ce qu'il y a dessus. Et ensuite, on la tournera quand on aura travaillé sur le fond.
Voilà, je ne pouvais pas m'empêcher de vous poser la question. Guirec Hamon, référent Jeunes Horizons des Côtes d'Armor, était avec nous ce matin pour commenter l'actualité politique. Il y avait encore bien des choses à dire, mais reviendrez, c'est promis. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.